dès 4h du matin pour Au Taquet. Et puis demain, à midi 13h sur Ici, c'est Marine Eugénie pour Ma France. Salut.
Ici, avec Marine Eugénie. Ma France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ma France. Avec pour commencer le soulagement des premiers ressortissants français en provenance du Proche-Orient. Ils ont atterri hier soir à Paris. Ici, était à l'aéroport de Roissy. D'autres vols devraient suivre, dit le Quai d'Orsay, qui veut évacuer en priorité les personnes les plus vulnérables. On vous explique. Alors que les cours du pétrole continuent de grimper, il n'y a aucune raison de se ruer dans les stations-service, assure le ministre de l'Économie. Pourtant, les files d'attente d'automobilistes inquiets s'allongent devant les pompes à essence, illustration près de Marseille. Au programme également, le début du procès du compagnon d'Elisa Pilarski. 6 ans après la mort de cette jeune femme mordue par le chien de son conjoint, nous retrouvons notre journaliste en direct depuis Soissons dans l'Aisne. Dans le journal des régions, nous irons en bord de Loire, où cette opération grand nettoyage après les inondations de février. Et puis à 13h15, nous recevrons, je vous le disais, Mélisa Godet, la réalisatrice d'un film d'utilité publique, La Maison des Femmes, sort demain. On l'a vu et on a beaucoup aimé. Des sourires sur des visages fatigués, des regards dans le vide et beaucoup, beaucoup de soulagement. Les premiers Français touristes ou résidents au Proche-Orient commencent à rentrer chez eux. Au 4e jour de guerre, plusieurs vols ont atterri à Paris hier soir. Yvan Plantaille était à l'arrivée de l'un d'entre eux en provenance d'Abu Dhabi.
Guillaume traîne ses deux valises et tient en même temps la main de sa fille. Tout sourire malgré ses yeux cernés. Ces nordistes, en vacances pour une semaine aux Émirats Arabes Unis, étaient dans leur hôtel quand le ciel s'est embrasé.
Il y avait quelques avions de chasse qui passaient au-dessus de l'aéroport d'Abu Dhabi. Et puis les missiles qui tombaient inertes mais en feu au bord des plages, sur les immeubles. Et puis voilà quoi. On a eu peur quand même parce que ces alertes, on n'a pas l'habitude de ça. Tous les téléphones qui sonnent partout aussi protéger les enfants pour qu'ils entendent le moins possible ce qui se passe.
Même expérience pour cette famille. Aurélien, le papa, a donc décidé d'expliquer le conflit en cours à ses deux enfants.
On a entendu beaucoup d'avions de chasse. On voyait les avions de chasse passer. On entendait beaucoup de bombardements. On entendait du bruit. L'hôtel a tremblé hier après-midi, bien évidemment. Donc on est extrêmement content de revenir ce soir. Surtout pour les enfants qui s'inquiétaient, bien évidemment, depuis 3-4 jours. On en parle, on ne peut pas leur cacher hein, parce qu'ils sont là, parce qu'ils voient ce qui se passe, ils entendent de ce qui se passe. Ça tournait en boucle à la radio. On leur cache pas les choses, on leur explique. Et puis on prend une carte du monde et on leur explique un petit peu ce qui se passe. Voilà, on essaie de les rassurer.
Clotilde, 11 ans, Théophile, 9 ans, avait hier soir le regard dans le vide en sortant de l'avion.
J'étais très stressée. Au début, je comprenais pas grand chose. Mais ensuite, j'ai compris qu'il y avait une guerre.
Audrey et Cléo, ces deux Avignonnaises, mère et fille, ont été, elles, confinées dans leur hôtel à suivre les événements jusqu'à saturer.
Moi, j'étais tout le temps genre sur Le Monde, sur l'application Le Monde. Et après, les infos, le soir sur la télé. Enfin, en fait, c'était le seul truc qu'on peut faire, quoi.
Au bout d'un moment, j'ai évité, en fait, de regarder. Parce que je me suis dit, tant qu'on n'avait pas de billet retour, ça servait à rien de s'angoisser, en fait. Et puis là, on a eu vraiment la chance. Je pense qu'on est l'un des premiers avions à avoir décollé. Hein.
Le patron des aéroports de Paris prévient que ces perturbations vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Un reportage d'Yvan Plantaille à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour Ici et des vols. Il va y en avoir de plus en plus, promet Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a fait un nouveau point ce matin que vous avez suivi, Nicolas Joly. Bonjour.
Bonjour Marine, bonjour.
Alors,
à tous.
Est-ce qu'on sait comment ces rapatriements vont s'organiser, Nicolas ?
Ils vont concerner en priorité nos compatriotes vulnérables. On pense aux personnes malades ou fragiles, par exemple. Ce sont les équipes diplomatiques, les ambassadeurs, les ambassades qui feront la liste. Ces personnes rentreront en France en priorité via des vols civils ou des avions de la République. Sur le terrain, des équipes consulaires sont postées à la frontière entre l'Égypte, la Jordanie et Israël pour aider ces Français qui cherchent à quitter Israël par la voie terrestre, annonce tout à l'heure du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
En parallèle, nous renforçons nos équipes sur place qui sont très sur le pont depuis 72 heures et nous renforçons nos équipes à Paris pour que la réponse téléphonique qui est assurée jour et nuit puisse se faire sans délai d'attente.
Les autorités françaises ont en effet mis en place des numéros à joindre dans chacun des pays affectés par la guerre au Moyen-Orient et une cellule de crise est aussi joignable en France.
Merci Nicolas Joly. Concernant les derniers développements de cette guerre sur le terrain, l'Iran met en garde les pays européens contre toute implication dans la guerre et continue de viser les sites liés aux États-Unis dans le Golfe. De son côté, Israël poursuit ses bombardements simultanément sur l'Iran et le Liban, où l'État hébreu va déployer des soldats sur de nouvelles positions. Israël annonce également avoir frappé la présidence iranienne et le Conseil de sécurité à Téhéran. Une guerre qui, on vous le disait hier déjà, entraîne une hausse des cours du pétrole. Le prix du baril franchit les 85 dollars. Aujourd'hui, une première depuis juillet 2024, avec notamment le blocage du détroit d'Ormuz, où transite un quart du trafic mondial de pétrole. Et ça se traduit très concrètement chez nous par des automobilistes inquiets à la pompe, qui se ruent dans les stations-service pour faire le plein, avec pour conséquence d'alimenter le risque de pénurie. Comme ici à Plan de Campagne, près de Marseille, Fabien Ledu.
Oui, des stations-service prises d'assaut dans une ambiance électrique. Une vingtaine de voitures patientes derrière Philippe.
Ils viennent parce qu'ils ont, entendu que ça a été bloqué. À chaque fois, c'est une psychose qu'ils ont. Hein.
Des automobilistes comme Christian, pressés de faire le plein.
Oui, habituellement, il y a moins de monde. Hein. Aller se balader en voiture demain ou aller travailler, c'est quand même important, non ? Allez, allez.
Objectif pour ces conducteurs comme pour Patricia, remplir le réservoir pendant que le carburant est encore abordable.
Ce matin, c'était 1,64.
Et là ?
1,65,7. J'ai peur, hein, parce qu'après, ça va être à 2 euros, il paraît. Là, j'ai mis 50 euros le plein. J'ai besoin d'avoir de l'essence.
Certains ont même des jerrycans dans le coffre.
Ils font des réserves, les mecs. Hein. Ils ont peur qu'il n'y ait plus d'essence, plus rien. Ils sont fous, ça sert à rien. Hein. Ça, c'est défendu en plus. Hein. Et puis, c'est dangereux. Ils économiseront rien, de toute façon, qui sait qui klaxonne.
Des comportements qui agacent Julie, arrivée à la pompe, sur la réserve.
J'estime que si on a encore de l'essence, il faut laisser ceux qui n'en ont pas aller le faire en priorité. Pas assez égoïste, je trouve, d'aller faire l'essence si on n'en a pas besoin.
Un empressement qui vide aussi les stocks plus vite que prévu.
Reportage signé Fabien Ledu, ici Provence. Le ministre de l'économie se veut rassurant. Il n'y a aucun risque sur l'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence, assure Roland Lescure. Le ministre précise qu'un dispositif a été mis en place pour faire face à cette situation, dont une cellule de crise qui se réunit une fois par jour sous sa direction à Bercy. Aucune raison donc de se précipiter dans les stations-service. C'est le message des autorités. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences chez nous. Suivez la situation en direct sur ici.fr.
Il y a des communes, il y a trois.
Ici, avec Marine Logénie, Ma France.
Dans l'actualité également, ce procès qui vient de débuter à Soissons dans l'Aisne, celui du compagnon d'Elisa Pilarski, jugé pour homicide involontaire. Cette femme enceinte est morte en 2019 après avoir été mordue par le chien de son compagnon alors qu'elle se promenait seule en forêt. Bonjour Coralie Moreau.
Bonjour.
Alors le procès s'est ouvert ce matin par l'audition de Christophe Ellul.
Vous voyez, dans la salle, de très nombreux journalistes, peu de public et une tension palpable dès l'ouverture du procès. À la barre, Christophe Ellul se présente en costume et chemise noire, comme en deuil depuis le jour de la mort d'Elisa, le jour où sa vie a basculé. « Je n'ai plus ma femme, je n'ai plus mon fils Enzo », dit-il à la présidente du tribunal, et il raconte sa vie aujourd'hui, une vie qu'il n'a pas reconstruite, une vie solitaire avec pour seul refuge le travail. En 7 ans, sa version n'a jamais varié, son chien Curtis n'a pas tué Elisa. La présidente lui demande alors « Vos certitudes aujourd'hui ne sont pas ébranlées ?» La réponse est claire, si c'était Curtis, c'est moi qui l'aurais tué. Et très calme, Christophe Ellul répond à toutes les questions et dit « Regretter ces 7 années d'instruction qui le laissent sans réponse. Ce qu'il veut, c'est la vérité pour lui, pour la famille d'Elisa. » Et il formule cette demande au tribunal « Si vous avez des preuves contre Curtis, mettez-les sur la table et tuez-le. »
Coralie Moreau, merci, journaliste police-justice pour ici. Et puis au procès en appel de Samuel Paty, les juges ont rendu un verdict plus clément qu'en première instance, sauf pour le militant islamiste Abdel Hakim Sefrioui, à l'origine de la campagne de haine en ligne contre le professeur décapité par un djihadiste en 2020. 15 ans de prison pour association de malfaiteurs. Les 3 autres accusés sont condamnés à des peines de 6 ans à 10 ans de réclusion criminelle. Dans moins de 15 jours, le dimanche 15 mars, on vote pour le premier tour des municipales. Et dans certaines communes, on a bien du mal à trouver des candidats. Pire, à Longuevillette, près d'Amiens, il n'y en a carrément pas. Résultat, c'est la préfecture qui administrera provisoirement le village après le scrutin, en laissant 3 mois à une liste paritaire de 7 personnes pour se positionner. Le maire actuel, François Crepin, 69 ans en poste depuis 2010, se désespère de cette situation.
Il y a des communes, il y a 3 listes, voire 4 listes. Les gens s'arrachent pour savoir qui va être élu, etc. Enfin, ça tourne à la discorde. Et ici, malheureusement, personne ne se manifeste. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été les chercher. Les gens savaient très bien que j'allais pas me représenter. J'ai pas préparé de liste. Je pensais que ça allait s'émerger d'eux-mêmes, quoi. Mais malheureusement, rien. Les gens n'osent plus s'engager.
Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit de se dire, bon, bah, la situation est ce qu'elle est, finalement, je rempile, quoi.
J'y ai pensé, mais je me suis dit non, je ne peux pas parce que, déjà, je m'étais promis d'arrêter. Je l'avais dit. Et moi, je n'ai qu'une parole. Sinon, c'est une girouette. Et puis, il est temps, parce que j'ai fait 3 mandats. Non, franchement, j'ai trop donné. Je ne veux plus recommencer.
Un propos recueilli par François Sauvestre au micro. Ici, Picardie. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Certains médicaments contre l'acné affinent-ils votre nez? C'est la nouvelle tendance en vogue donc sur les réseaux. Vous allez l'entendre, c'est à la fois vrai et faux. Mais surtout, attention, les médicaments cités, des médicaments contre l'acné ont des effets secondaires loin d'être anodins, Solène Lehen.
Celle qui a amplifié cette rumeur, c'est la très célèbre influenceuse américaine Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian. Elle raconte dans une interview cette théorie expliquant que le médicament Accutane affine votre nez, dit-elle, je vous jure que c'est vrai. Ce médicament existe en France sous d'autres noms, Procuta, Contracné, Curacné, tous à base d'une molécule, l'isotrétinoïne. Alors le nez devient-il vraiment plus fin? Réponse du docteur Nathalie Dumarcet, de l'Agence de sécurité du médicament.
Quand on a une acné, on a une peau grasse, l'isotrétinoïne assèche la peau s'affine. Donc peut-être qu'il y a un effet d'amincissement, mais l'effet va être temporaire, et puis il n'y a aucune preuve d'action sur l'os ou le cartilage.
Surtout, ces médicaments efficaces contre l'acné sont aussi dangereux. Les jeunes femmes qui les prennent, si elles sont enceintes, ont un risque majeur de donner naissance à un enfant mal formé.
Et c'est de l'ordre de 30% de malformation, même avec une seule prise, même si la dose est très faible.
Il existe également des risques pour le foie et des possibilités de dépression. Pour cette raison, l'Agence de sécurité du médicament a très strictement encadré ces dernières années la prescription de ces médicaments par les médecins.
Les précisions nécessaires de Solène Lehen. Et puis en foot, c'est le retour de la Coupe de France cette semaine avec les quarts de finale de la compétition. Ce soir à 21h, Strasbourg reçoit le Stade de Reims.
Ici, l'actu au cœur des territoires, Ma France.
Et on reparle des municipales pour débuter ce journal des régions avec un sujet qui ne figure pas en tête des programmes mais qui prend de plus en plus d'importance, en particulier dans les grandes villes, la place des chiens à Paris. Ils sont 100 000, ça fait autant d'électeurs attentifs au sort de leurs compagnons à quatre pattes. 3 Français sur 4 estiment que la place accordée aux chiens en ville est aujourd'hui insuffisante, notamment dans les parcs. Raphaël Benabdelmoumen s'est rendu dans celui du 10e arrondissement de Paris, le seul pour 4 000 chiens, alors forcément, ça crée des tensions.
C'est un petit espace grillagé, coincé à côté du canal et entouré de voisins excédés.
Quand vous entendez ça depuis une heure chez vous et que personne ne fait rien, vous explosez. Moi, j'ouvre la fenêtre, je dis « ta gueule, le chien !»
Voilà, ils sont en train de japper, les chiens et les maîtres ne disent rien.
Alors Frédéric décide d'intervenir.
Et là, il y avait des chiens qui aboyaient et vous faites rien.
Si, je viens de m'arrêter là.
Oui, ça faisait un quart d'heure qu'il aboyait.
Moi, j'éduque mon chien. Mais après, il faut qu'on puisse tous vivre dans la même ville et accepter aussi les animaux, ça fait du bruit, les humains.
Une situation qui dure depuis l'ouverture du Caniparc en octobre. Certains en sont même venus à cadenasser le portillon et même les propriétaires de chiens ont le sentiment d'être mis à l'écart.
On est entre les migrants, les gens qui prennent du crack et une déchetterie.
Thomas fait partie de l'association Les Chiens du Canal.
Donc c'est quand même compliqué, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le chien a sa place? Et c'est un vrai enjeu politique. Il y a 100 000 chiens à Paris, ça représente, je pense, un nombre assez considérable de personnes qui votent.
Et ils feront leur choix, autant pour eux que pour leurs chiens, prévient Loïc de Paris Conditions Canines.
Là où on a travaillé sur d'autres usagers, les enfants, donc les familles, mais également les vélos, on en est peut-être à l'ère du chien. C'est le moment opportun pour leur faire une meilleure place dans la ville, mieux les intégrer.
Alors tous les candidats y vont de leur proposition. Dans le 10e arrondissement, la plupart ont déjà promis l'ouverture d'un deuxième Caniparc.
Le collectif de propriétaires de chiens a transmis début février aux candidats aux municipales son livre blanc pour proposer 10 mesures afin d'améliorer la place des chiens à Paris. Direction à présent les bords de Loire qui retrouvent progressivement son lit après les inondations de la mi-février à l'est de la Loire-Atlantique, secteur le plus touché. On peut encore voir de l'eau dans les champs le long de certains chemins. L'heure est donc au nettoyage, comme à Oudon, 4000 habitants, où les agents municipaux, après avoir aidé à protéger les biens des uns et des autres lors de la crue, viennent maintenant récupérer le matériel et nettoyer ce qui peut l'être, Céline Oiseau.
Place du Marché, le Karcher est de sortie. Les agents communaux récupèrent aussi du matériel prêté à certains commerçants.
On va enlever les parpaings pour remettre les meubles à terre.
Alors les opérations de nettoyage, pour l'instant, se situent beaucoup sur l'espace public afin de réouvrir les routes qui ont été impactées par les inondations.
Sébastien Rabot est responsable du pôle aménagement à la mairie d'Oudon.
Et la deuxième partie, ça va être dès qu'on aura le feu vert, c'est procéder aux opérations de nettoyage des bâtiments communaux.
Car il faut attendre le passage de l'expert de l'assurance, mais il sait déjà qu'il y a des dégâts.
Notamment dans une salle où il y a le parquet qui est complètement soulevé par l'eau qui est rentrée dans le bâtiment. Alors là, il y a un beau chantier de renouvellement complet du parquet. Donc
8 bâtiments communaux, selon lui, sont concernés par les inondations.
Ça va être des vestiaires, des terrains de foot, des salles communales.
Il y a ce qu'on voit déjà et il faut s'attendre à de mauvaises surprises au fil des jours.
Ça peut être des équipements métalliques qui vont peut-être être amenés à rouiller, ça peut être des placos qui vont être foutus puisqu'ils auront pris l'humidité et donc vont être déformés, qu'on ne pourra même pas repeindre par exemple, ça va être des éléments comme ça. Et plus qu'on ne voit pas, l'isolation.
Place du Marché, il faudra également vérifier les branchements électriques pour les commerces ambulants. Autre chantier attendu, au niveau du camping municipal, encore inaccessible en partie hier. Autant d'heures de travail de nettoyage et de réparation dont le coût n'est pas encore chiffré.
Reportage ici, Loire-Océan, signé Céline Loiseau.
Ici, avec Marine Logénie, Ma France.
13h16, vous écoutez Ma France. Demain sort un film utile, émouvant, drôle aussi, qui donne envie de croire, inspiré de la première maison d'accompagnement des femmes victimes de violences fondée par Rada Hatem à Saint-Denis, un endroit où médecins, psychologues, avocats, juristes, policiers conjuguent leurs compétences. Demain sort La Maison des Femmes, réalisée par Mélisa Godet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Comment est née cette idée, Mélisa? Je crois savoir que ça a mûri de longues années.
Oui, ça a mûri de longues années. La première fois que j'entends parler de la Maison des Femmes, c'est en écoutant la radio. Mm-hmm. Chez moi, j'écoute beaucoup la radio. Et
c'est une bonne manière,
voilà,
une bonne habitude.
je pense aussi. Et j'entends Rada Hatem parler de sa maison, qu'elle est parvenue à faire sortir de terre à Saint-Denis, et de comment justement elle y travaille avec cette idée géniale qui est de proposer aux femmes victimes de violences dans un seul endroit tout ce dont elles peuvent avoir besoin pour se relever.
Et ça vous parle tout de suite,
ça allume plein d'ampoules dans ma tête, je me dis c'est le film que je rêve de faire. Et à ce moment-là, je suis seulement scénariste, pas encore réalisatrice, et je D'accord. me dis c'est un sujet merveilleux, mais c'est un gros sujet, il faut le faire bien. Mm-hmm. Donc je continue à travailler sur plein d'autres choses pour me sentir prête au moment où je me lance.
Pour qu'on comprenne bien votre déclic, je vous propose et je propose aux auditeurs, auditrices d'écouter Rada Hatem.
Moi, j'ai voulu un lieu pour que la violence qui n'est pas prise en considération en tant que telle à l'hôpital puisse s'exprimer, que les femmes puissent se dire « je vis des choses difficiles, à qui je peux en parler ? Où est-ce que je peux aller ?» Pas au commissariat, j'ai pas envie, pas forcément dans une association de militantes parce que j'ai besoin de plus, et donc, pour moi, l'hôpital, c'est là où je bosse, j'ai toujours bossé à l'hôpital, était le lieu parfait. Parce que parler à un soignant, c'est rassurant, c'est pas du tout se mettre en danger, a priori. Et donc je me suis dit, ouvrir un lieu qui s'appelle la Maison des Femmes, peu importe, ici, on s'occupe de la violence, ferait la différence. Mmh. Et la vie nous a donné raison, c'est-à-dire qu'on a été submergés très très rapidement de demandes de femmes qui, avant, n'allaient nulle part ailleurs, parce qu'il n'y avait rien d'équivalent.
Voilà, Rada Hatem, c'était il y a quelques jours chez nos collègues et amis de France Inter. Est-ce que ça a été facile de la convaincre?
Elle nous a pris pour des zinzins. On l'a rencontrée avec ma productrice Emma Javot tout de suite, parce qu'on s'est dit on peut pas faire ce film sans elle, ça mm-hmm. c'est sûr. Et au début, je pense qu'elle nous a pas cru. Elle a pas cru qu'on y arriverait. Voilà. Et elle était pas très à l'aise avec l'idée de se voir transposée en personnage.
Parce que d'un seul coup, c'est elle qui devenait le centre de l'histoire.
Ça,
c'est
voilà.
Ça
oui. Mais en fait,
beaucoup d'humilité.
Exactement. Mais ce qui a été super, c'est que ces inquiétudes ont vraiment rencontré mes envies. Moi, j'avais envie d'un film d'équipe, d'un film choral sur cette équipe, et puis aussi j'avais envie de fiction. Donc ça l'a rassurée, on a pu travailler ensemble main dans la main, et c'était vraiment une rencontre merveilleuse.
Vous avez mis combien d'années à la rassurer ?
Non, pas si longtemps, pas quelques si longtemps. Mois, et puis on lui a fait lire petit à petit des étapes d'écriture aussi, d'accord. Et ça je pense qu'elle a vu où je voulais aller, où je voulais en venir, et ça l'a aussi rassurée.
Alors avec votre film, on est directement plongé dans cette maison des femmes, dans ces histoires de femmes violentées, excisées, exilées. Et comme dans la vie, les moments dramatiques laissent la place à des éclats de rire. On va écouter ensemble la bande-annonce.
La Maison des Femmes, bonjour.
Alors, c'est Amina, c'est ça ?
C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose.
Et là, on donne tout. 3, 2, 1. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi du coup les patientes sinon on ferme ?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer.
Putain, mais si nous on peut pas être là pour celles qui ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi là, les statistiques, là, tout ce bordel là ?
Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service.
Oh, moi tu sais, ça me dérange pas les oufs.
Bah évidemment, c'est ton fond de commerce.
Amina, souris là.
Ça arrive pas.
T'es magnifique.
Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Bien que ça, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein.
Ah, même pis, si ça se trouve. Hein.
Amina, Amina, Amina. Fière, puissante.
Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire.
Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre.
Et puis quand ça marche pas, on va se brûler la gueule.
Et du coup, vous faites quoi ce soir ?
Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide.
Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux.
Cette bande-annonce en entier, elle reflète bien la diversité aussi des tons, des ambiances dans ce film. Un mot du casting, Mélisa, féminin en grande majorité dans ce film choral, car ce sont des femmes qui s'occupent majoritairement de ces patientes quand même.
Oui.
Karine Viard, Diane, chef d'équipe, Laetitia Doche, Manon, Eye Aïdara, Awa chargée d'accueil, Oulaya Amamra est une jeune interne qui découvre cet univers, Juliette Armanet et Lucie. Elles ont été faciles à convaincre, ces actrices ? Est-ce qu'elles se sont, elles aussi, immergées dans cet univers-là ?
Oui, elles se sont complètement immergées. C'est-à-dire, ce qui a été formidable sur ce film, et que ce soit pour les actrices, les acteurs, et aussi l'équipe technique, et aussi les gens qui ont participé au financement du film, c'est qu'on a senti vraiment que chacun avait à cœur de prendre sa part pour porter ce sujet, pour mettre en avant ces problématiques. Donc ça, c'était assez beau à vivre. Et puis, ces actrices, j'ai eu une chance incroyable sur un premier film, avoir autant d'actrices merveilleuse, c'est improbable.
Mais il y a aussi des hommes quand même.
Il y a aussi quelques hommes, oui, bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que ces femmes-là ont besoin d'hommes aussi pour qu'on leur dise que c'est pas normal, qu'elles ont vécu de la violence par d'autres hommes.
Oui.
Ça, c'est important qu'ils soient là quand même, qu'ils soient représentés.
Absolument. Jean-Charles Cliché, Pierre Delanonchamp et Laurence Stocker qui portent la voix de ces hommes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, effectivement.
Et comment s'est déroulé ce tournage ? Est-ce que vous avez une anecdote qui vous revient en tête, un moment un peu plus marquant que les autres ?
Bah, ce tournage...
Dans les lieux déjà d'une maison des femmes ?
Non, impossible. Elles ont beaucoup trop de travail. On ne voulait surtout pas déranger les parcours de soins en cours. Le tournage, il est à l'image du film, c'est-à-dire on a oscillé de manière permanente entre des séquences très très lourdes à tourner, vraiment très émouvantes à fabriquer, et puis des grands moments de relâchement quand on a tourné des séquences de groupe très joyeuses où cette équipe exulte aussi, parce que c'est à ça que tiennent ces équipes, à l'énergie et à la joie aussi de faire ce qu'elles font.
Et ces femmes victimes, vous les avez rencontrées ?
De la même manière, pour pas mettre en péril les parcours de soins, je suis restée très discrète. Mm-hmm. J'ai pu beaucoup parler avec Rada de comment elle travaille dans cette maison et de ses patientes, mais voilà, je voulais vraiment pas prendre le risque d'interférer en fait.
Alors le film sort avant 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Plus d'une trentaine de structures existent désormais en France. Le modèle, vous le disiez et Rada le disait, a suscité l'intérêt du gouvernement. Il a annoncé en 2023, l'objectif d'en avoir une par département. Et justement, en Moselle, il y en a une toute nouvelle à Thionville. Elle accueille toutes les femmes victimes de violences. Cette maison des femmes a ouvert hier. Marie-France Oliéric, gynécologue, est à la tête de cette maison des femmes. On l'écoute.
Cette femme qui hésite probablement souvent ou qui a beaucoup hésité à franchir le seuil de la porte, eh ben finalement elle ose. Et après, tous les acteurs qui peuvent l'aider s'articulent autour d'elle. Elle n'est pas obligée d'aller faire d'abord une certaine attente à l'hôpital, puis elle va aux forces de l'ordre, puis elle trouve l'association. C'est pas toujours facile. Là, tout le monde essaye de se débrouiller pour s'articuler autour d'elle et puis pour lui rendre la prise en charge la moins compliquée possible. J'aime bien le terme de cocooning, de les chouchouter en fait, et de se dire qu'on est là pour les aider. On a tout de suite pensez que ce serait mieux hors les murs de l'hôpital pour le côté effectivement moins aseptisé de l'hôpital, moins impressionnant. Et en fait, ces locaux sont chaleureux parce qu'il y a du bois, parce qu'il y a des jolies couleurs, parce que les sièges sont confortables et que c'est déjà difficile pour ces patientes, le rapport au corps, le rapport à l'extérieur, de se dire qu'elles peuvent être dans un sorte de cocon de prise en charge. La population, elle est très différente entre Saint-Denis, entre une grosse métropole et avec Thionville. Mais il ne faut pas se leurrer, les violences, elles sont dans tous les niveaux socio-économiques. Il n'y a pas de raison qu'on ait moins de violences. De toute façon, quand on regarde les déclarations d'agression, qu'elles soient sexuelles, des violences intrafamiliales au tribunal, ou quand on voit les dames prises en charge dans les associations, on se rend compte que même ici à Thionville, il y a des patientes qui sont victimes. Donc on s'attend à du monde. Et surtout, quand on entend les expériences des autres maisons des femmes, c'est de se dire que quoi qu'on pense, on a toujours plus de patientes qui arriveront, donc c'est un réel besoin.
Marie-France Olyric au micro d'Emma Vogli-Maxi, ici Lorraine, ce qu'elle dit c'est très intéressant aussi sur le profil, on n'a pas une femme battue type, et on voit ça très bien dans votre film également.
Pas du tout, c'est vrai que du point de vue des violences, les femmes sont toutes sur un pied d'égalité, ça touche tous les milieux sociaux, toutes les zones géographiques, et c'est ça que ces maisons des femmes montrent, c'est que leur patientèle, elle est dans tous les endroits de la société, malheureusement.
Je disais au début de cette présentation, c'est un film utile parce que ça donne aussi des conseils concrets. C'était important pour vous aussi qu'une femme qui peut-être se retrouve en difficulté regarde ce film et va trouver des clés?
Oui, absolument. Peut-être une prise de conscience déjà que ces endroits existent et que des endroits pour aider existent, de ce que c'est qu'un cercle vicieux d'emprise aussi, et de comment on peut en sortir. Et nous, on a montré beaucoup le film en avant-première justement dans des villes où désormais il y a des maisons des femmes. Et il y a aussi beaucoup de personnes dans le public qui nous ont dit, bah, grâce à ce film, ce soir je suis venue avec ma fille par exemple, et grâce à ce film, ce soir on va pouvoir avoir une discussion qu'on a pas encore eu. Et ça, c'est, si ce film peut faire ça, c'est vraiment merveilleux.
J'imagine ce que vous avez ressenti quand on vous a dit ça.
Oui, bah c'est très très émouvant.
On en profite aussi pour rappeler le numéro à composer si on est victime de violence, le 39 19, et bien sûr les appels aux dons pour aider ces maisons des femmes. Merci beaucoup Mélisa Godet d'avoir été avec nous pour ce très beau film, je le redis, La Maison des Femmes, qui sort demain au cinéma. Merci.
Ici Ma France.
Et on termine cette émission comme tous les jours avec votre rendez-vous anti-arnaque. C'est pas vrai, Valentin Bertrand. Trouver un smartphone, un ordinateur ou un objet high-tech pour une poignée d'euros, c'est l'espoir sur lequel s'appuient les revendeurs de colis perdus. Mais dans certaines boutiques, attention, le client ressort toujours perdant.
Oui, le filon de ces colis abandonnés ou perdus, revendus à l'aveugle à un prix fixé au kilo, attire des escrocs sur Internet. De nombreux clients déchantent, ils ont dépensé des dizaines d'euros pour des charnières de porte, une multiprise, un bracelet bas de gamme ou encore des coques de téléphone d'ancienne génération. Des objets devenus inutiles qui reviennent finalement plus cher que leur prix dans le commerce. Alors oui, dans certains cas, c'est juste la faute à pas de chance. Mais on peut parfois avoir de sérieux doutes sur la provenance de ces colis. Des professionnels ont révélé la combine, acheter des stocks d'invendus à un grossiste pour une bouchée de pain, les emballer pour les maquiller en faux colis perdus et les revendre ensuite à un prix bien plus élevé.
Et justement, Valentin Bertrand, comment détecter les arnaques? Aidez-nous un peu.
Déjà, regardez les prix. En dessous de 10 euros le kilo, c'est trop beau pour être honnête. S'il approche par contre des 50 euros, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez aussi demander au vendeur quels sont les moyens de paiement acceptés. S'il ne prend que l'espèce, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Mais il y a un autre indice qui ne trompe pas. Regardez les cartons et les étiquettes. Vu le nombre de sites internet, Amazon, AliExpress, Wish, la Fnac, tous les colis ne doivent pas se ressembler. Si c'est le cas, fuyez, ça sent vraiment la mauvaise surprise.
C'est bien noté, merci beaucoup Valentin Bertrand. On rappelle l'adresse mail pour vous écrire si jamais vous repérez une arnaque, si vous avez été victime d'une arnaque, ici.arnaque@radiofrance.com.
Si vous aimez découvrir des villes qui changent de la ville,
ici vous invite à découvrir Amiens dans les pas de Jules Verne.
Mais si vous préférez découvrir l'architecture de Lille ou du Havre, on a aussi un programme complet pour vous.
Partir, votre guide audio avec plus de 80 idées de destinations pour des week-ends partout en France ou tout près de chez vous.
Partir, une série de podcasts disponibles gratuitement sur l'appli Radio France et ici.fr.
Occitanie, tous les jours à vos côtés.
Distribution gratuite de composteurs à Auch et carnaval géant à Albi. Ici Occitanie, à vos côtés.
Tom Clisson.
Vous habitez à Auch, vous souhaitez trier vos déchets alimentaires, mais vous n'avez pas de composteur, alors inscrivez-vous sur le site de la mairie. La ville organise une distribution gratuite de kits de compostage. Les restes alimentaires, les fleurs fanées et tous les déchets verts, jetez-les désormais au compost. La distribution se fait dans un mois, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Hop, on en profite. Et le carnaval n'est pas fini, hein, depuis plus d'une semaine, les rues d'Albi se sont mises aux couleurs de la fête et des confettis. Le carnaval d'Albi fête ses 70 ans. Le thème pour l'occasion, retour dans le passé, années 30 à 2000. Au programme, demain après-midi, le carnaval des enfants, place de la Pile, avec une crêpe géante pour le goûter. Et dimanche après-midi, deuxième défilé dans les rues albigeoises. Alors enfilez votre plus beau déguisement et profitez de la fête. Ici Occitanie à vos côtés, on revient dans une heure.
Ici Occitanie.
Actu locale, musique et bonne humeur.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing. Ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life and I've been working. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer,
et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient,
et les Beach Boys chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around,
get around,
get around.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient. Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues, et les loulous roulaient,
les loulous roulaient,
et les cailloux chantaient,
et les cailloux chantaient,
un truc qui me colle.
La lettre d'amour à la culture pop qui a fait sonner l'oreille de Laurent Voulzy, ici Occitanie en 1977, c'était Rock Collection. Ici Occitanie vous souhaite un excellent mardi. Eh oui, c'est déjà la deuxième semaine des vacances, ça y est, ça continue. Et puis l'écho d'ici arrive dans quelques minutes avec un entrepreneur tarné-garonné qui a trouvé une solution, écoutez bien, pour lutter contre l'humidité des bâtiments. On en parle dans un instant. Pour la musique, les Eurythmics se plaignent du mauvais temps, tandis que Pierre Garnier espère le soleil à l'horizon. Bah oui, nouveauté ici Occitanie.
Heures du matin, je suis encore réveillé. Je sais bien que demain j'aurai tout oublié. La tête à l'envers, j'arrive plus à penser. Et quand la nuit m'appelle, elle me fait vaciller. Mais dis-moi qui je suis, si jamais je l'oublie. Quand plus rien ne m'attire, que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre l'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon. Dis-moi que tout sera comme avant. Je voudrais jamais tout changer, jamais tout abandonner. Mais parfois j'ai peur de ne rien contrôler. Je m'endors dans des nuits agitées, impression que je pourrais vriller. Mais tout me rappelle que je dois continuer. Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire. Que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, la raison. L'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon.
Occitanie.
Occitanie, votre radio locale.
Les acteurs de l'économie locale sont à l'honneur tous les jours. Ici Occitanie, c'est l'écho d'ici.
Bonjour William Coignard.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous avez fondé Humidistop en 2012, dont le siège est à Montauban. Avec les températures qui baissent aujourd'hui, on risque de voir beaucoup d'humidité rentrer dans les foyers. Est-ce qu'on sait combien de foyers en Occitanie sont vraiment touchés par l'humidité?
Alors on est à peu près à 40% de taux d'humidité au niveau des logements, c'est-à-dire que soit il y a des problèmes de condensation, soit des problèmes de moisissure, soit des problèmes un peu plus structurels, des remontées d'humidité ou ce genre de choses.
Et alors vous avez pensé, conçu un appareil qui permet de retenir, d'éviter l'humidité qui ressemble, vous nous en avez amené un ce matin pour ceux qui nous regardent sur France 3, à une box en fait.
Exactement, je l'ai dans la main, c'est comme une box, on le met directement sur le mur d'origine, le mur humide, dans les vieux bâtiments, et ça permet, entre guillemets, de faire redescendre l'humidité résiduelle qu'il y a dans vos murs par rapport aux bâtiments anciens. Ça se branche. Alors voilà, une alimentation toute simple sur la prise de courant. Vous le branchez, vous le mettez directement sur le mur porteur humide, je précise, et ça va envoyer des pulsations électriques à l'arrière de l'appareil qui va permettre d'aller dépolariser et déstabiliser les molécules d'eau et les faire redescendre.
Et ça, juste une box comme ça permet de déshumidifier toute une maison, par exemple ?
Oui, alors après, tout dépend de la construction de la maison. Il faut que la construction de la maison soit au même temps. C'est-à-dire que si c'est 1932, il faut que ça soit en même temps. Si par hasard, c'est un corps de ferme fait en plusieurs fois, il faut mettre plusieurs appareils.
Et ça coûte combien un appareil comme ça en moyenne ?
Ça commence à 1 200 €, et pour les très gros bâtiments, on est plutôt vers les 2 200 €.
Ok, donc c'est quand même un gros investissement.
Exactement.
Est-ce que vraiment ça peut améliorer, réduire l'humidité et vraiment nous permettre de rentabiliser cet investissement à 1 200 € quand même?
Oui, alors après, il faut savoir quand même que l'humidité, il ne faut pas la prendre à la légère. Vous avez les structures, il faut refaire ses peintures, il faut refaire ses enduits, vous avez aussi les problèmes d'humidité au niveau de la santé. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Il faut savoir que ce type d'appareil équipe la plupart des bâtiments publics en Occitanie, ça vous donne un exemple, dans les églises où vous allez dans le coin, dans les mairies, dans les vieux bâtiments, c'est ce qu'ils mettent pour pouvoir traiter l'humidité.
Et ce sont vos clients ?
Alors une grosse partie, alors on n'est pas les seuls en Europe à faire ce genre de produit, mais par contre ce qui est sûr c'est que la plupart des bâtiments autour de nous, même la mairie de Toulouse, etc. connaissent ce type de système.
Et en tant que particulier on peut également...
Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est très accessible, il y a quelques années c'était pas du tout accessible et aujourd'hui vous pouvez les acheter sur internet et en grande distribution aussi dans les différents sites spécialisés.
Vous avez vendu 15 000 appareils depuis 2012.
Exactement.
Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2025, c'est quoi la suite?
Alors nous on travaille pas qu'en France. Aujourd'hui, il y a quand même un climat un peu morose au niveau économique. Et donc, aujourd'hui, on est aussi présent en Espagne, en Italie, en Pologne, en Belgique, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, nos produits français sont publicités partout en Europe, voire un peu plus loin. Nos clients les plus lointains sont en Australie.
Merci beaucoup William Coignard, vous êtes le fondateur d'Humidistop et vous disiez français puisque vous travaillez avec une usine de Castres, je crois, l'entreprise
Cizelec. Exactement, on fabrique avec notre partenaire Cizelec directement sur Castres et il faut savoir que pour nous c'est très important le local parce que c'est un circuit court. Ça coûte pas plus cher de fabriquer ici.
Voilà, merci beaucoup William Coignard, bonne journée à vous.
Ici Occitanie.
écoutez Ici.
Ici Occitanie.
Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire. Tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter. Le chant. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elles fredonnent dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant. Sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau.
Un terme trop souvent dévoyé ces temps derniers, la liberté d'expression passe aussi par le chant. Ici Occitanie, c'était Patrick Fiori. Actu, musique et bonne humeur, l'actu c'est pour 14h, mais d'abord on va saluer la performance du groupe No Dops, qui, avec ce titre, a été numéro 1 dans plus de 15 pays, et dont le clip a été l'un des plus diffusés sur la regrettée chaîne musicale MTV. Don't Speak, à tout de suite.
Ici, vous écoutez, ici Occitanie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis hôtesse de l'air.
Est-ce que vous avez vu cette exposition temporaire à l'envol des pionniers sur l'histoire de la compagnie à travers des objets, des tenues ?
Je suis allée, ouais, elle était très très jolie cette expo.
Ici, connecté avec vous.
J'ai envie de vous demander dans le monde entier, quelle est votre radio préférée qui est devenue ici ?
Eh bien écoutez, ici Occitanie.
Ici Occitanie, le nouveau nom de votre radio locale.
L'obésité n'est pas un choix. Moi, je voudrais qu'on me regarde normalement, qu'on m'écoute et qu'on me considère comme tous les autres. Ainsi, mon corps ne serait pas un frein à l'emploi. Je trouverais des vêtements à ma taille, je serais soigné et traité avec bienveillance. L'obésité n'est pas un choix. C'est une maladie aux causes multiples. 8,5 millions de Français sont touchés aujourd'hui. Relevons la tête, mettons fin à nos préjugés sur la maladie obésité.
Groupama.
Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les agriculteurs.
Alors Pierre, ça avance votre réflexion de reprise d'exploitation ?
Oui, mais dans le monde agricole d'aujourd'hui, c'est un vrai défi.
Vous avez raison, l'agriculture est en pleine transformation. Chez Groupama, nous accompagnons chaque année près de 20 000 nouveaux installés pour les aider dans leurs projets.
Avoir un spécialiste à ses côtés, ça fait toute la différence, Cerise.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Donnez Groupama au 31 décembre 2025. Renseignements auprès de votre conseiller ou sur groupama.fr.
Ici Occitanie.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Radio, une appli au cœur du Midi Toulousain, ici Occitanie.